Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Devaux. Philippe Devaux est conférencier et écrivain, auteur de livres de spiritualité. Il anime des ateliers depuis 15 ans en France et à l'étranger, en Amérique, en Inde, au Maroc, en Europe et même en Chine. Initié par de grands maîtres soufis et des maîtres de l'Inde, il a écrit plusieurs livres sur les voies soufis en Asie. Et il est venu aujourd'hui au Centre culturel d'Agen pour présenter une conférence qui sera suivie d'un atelier de pratique ce week-end. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Est-ce que ma présentation vous paraît, est-ce que j'ai tout développé sur, est-ce qu'il y a un aspect de vous que vous aimeriez rajouter?
Ben, c'est déjà pas mal. Évidemment, c'est tout le sujet est de développer ça. Je pense que parler de la méthode sera important. À mon sujet, oui, c'est vrai. La forme de compassion pour moi, ce qui est la compassion, est très important pour moi. C'est d'aider les gens à repérer quelles sont leurs blessures de l'âme et comment s'en libérer. C'est ça le point clé. Quelles que soient les méthodes que j'utilise, on va en parler, il y en a plusieurs, toujours le mot-clé, c'est libération. Aider les gens à se libérer des voiles, des blessures, des nœuds, de tout ce qui nous empêche de respirer dans la vie.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager votre cheminement spirituel? Qu'est-ce qui vous a amené à retransmettre aujourd'hui et à aider les autres autour de vous?
C'est vrai que très petit, j'avais une grande aspiration. Le plus drôle, c'est que j'étais né, enfin mon nom était De Vos, mais mon père avait pris un nom de cinéma, Robert Darren, c'est un metteur en scène de cinéma. Il a fait La Cage, il a fait Il suffit d'aimer, La vie de Saint-Bernadette. Je suis né dans un milieu de cinéma. Ma mère était script, elle même était script d'Orson Welles, William Wyler, Le jour le plus long, etc. Donc je suis né dans un milieu de cinéma, mais c'était très étonnant, malgré ça. Quelque chose m'aspirait, m'élevait, m'appelait à enseigner. Au lieu d'être simplement acteur, ce que j'aurais pu être, moi je regardais l'ego des gens. Et cet ego, surtout des acteurs, me paraissait extraordinaire. Et je m'étais dit, il faut que je découvre qu'est-ce que c'est que cette sorte d'ego qui est comme un masque, justement le masque de l'acteur, qu'on appelle la personnalité, et qui finalement n'est pas vraiment la sincérité. Et je m'étais dit un jour, c'est intéressant d'apprendre à faire tomber le masque et à découvrir qui est derrière le masque, que ce soit en moi comme dans les autres, qu'est-ce que cette sincérité qui fait qu'on est vraiment soi-même, qu'on est heureux dans sa peau plutôt que de jouer simplement un rôle extérieur que les autres nous donnent.
Et vous me disiez aussi que sur votre route, vous avez été un temps chez les trappistes.
Voilà, alors justement, quand j'ai eu 19 ans, bah d'abord tout petit, c'était vraiment la blague de la famille. Je veux être prêtre. Alors qu'il y avait toutes les danseuses de Paris, les belles femmes, tout le monde était autour de moi et je leur citais l'évangile. Et tout le monde se moquait de moi. Alors que j'étais considéré un peu comme un demeuré, puisque je parlais de Dieu, de Jésus et de l'évangile pendant qu'on me parlait de cinéma, d'aller jouer, etc. Et petit à petit, à 20 ans, j'ai étudié l'œuvre de René Guénon, qui est un philosophe qui est extraordinaire, d'une plume magnifique d'ailleurs, qui écrit très bien, et qui a parlé de toutes les religions du monde et de tous les enseignements, montrant que finalement il y a une tradition éternelle originelle, ce qu'on appelle finalement la grande tradition, dont un peu toutes les religions sont des expressions, et qu'au fond il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin de l'homme vers Dieu, vers son Seigneur. Et donc là, j'ai commencé à vouloir regarder ça. Et me dire au fond ce qui est important, c'est d'avoir un langage universel qui s'adapte à n'importe qui, à n'importe quelle personne, sans exclusion. Pour moi, le pire, c'est que ce serait quand même l'exclusion. Sentir qu'un message peut être universel à notre époque et intégrer tous les aspects et toucher n'importe quel être humain. Et donc j'ai choisi plusieurs méthodes d'enseignement qui, au-delà des formes religieuses que je respecte toutes, étaient un message spirituel et un message finalement de libération du cœur, un message d'amour, un message de compassion.
Et donc sur cette route, vous avez rencontré des maîtres indiens et ensuite vous avez rencontré le soufisme.
En fait, j'ai commencé par rencontrer, bien sûr, des maîtres chrétiens, donc j'ai été à la trappe quelque temps. Finalement, je me suis dit non, Il faut quand même vivre le couple, il faut vivre la famille. Et donc je suis sorti et puis j'ai commencé à rencontrer un proche de ce René Guénon qui s'appelait Michel Valsan, qui est très célèbre parce qu'il a écrit beaucoup aussi d'ouvrages. Il était le responsable des études traditionnelles qui parlait toutes les religions du monde. Et il m'a amené à connaître le soufisme comme une sorte de pont entre l'Occident et l'Orient. C'est-à-dire un pont, puisque je suis quand même occidental, je suis français, je suis d'une vieille famille française en fait. C'est amusant, chevalier de Vosse, comte d'Herlebourg, même depuis 1234, on a l'histoire de la famille. Mais quand même, je m'étais dit, ok, occidental, mais l'Orient, c'est pas un détail. Et donc j'ai commencé à vouloir m'intéresser à l'Orient, donc à l'Inde, à l'Asie, même ensuite en Chine, puisque j'ai été pendant 5 ans dernièrement faire beaucoup d'enseignements. Donc j'ai voulu trouver ce pont entre l'Orient et l'Occident, et c'est là où la voie soufie, qui est la voie intérieure de l'islam, le côté spirituel, m'a permis d'intégrer différents aspects, puisque, en fait, dans cette voie soufie, on reconnaît un peu toutes les formes. Il y a un homme qui s'appelait Ibn Arabi, on appelle le grand maître suprême soufi, Shir el-Akbar, il dit « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines chrétiens, la table de la Torah, la Kaaba du pèlerin, mon chemin et l'amour, quel que prend les formes de mon cœur. » Donc la capacité du cœur à prendre toutes les formes et à reconnaître toutes les sagesses dans leur multiplicité, c'est ça qui m'a appelé à être le pèlerin, un pèlerin universel sur le chemin de l'âme. Voilà.
C'est très beau. Comment peut-on définir cette science de l'âme que vous proposez dans vos conférences d'enseigner avec l'éclairage soufi? Cette science de l'âme avec l'éclairage soufi.
Voilà. Alors en fait, l'âme, c'est ça qui est merveilleux en nous. Notre âme, elle est lumineuse. C'est une âme lumineuse. Notre âme, elle est l'expression d'une petite lumière que Dieu a mise en chacun de nous d'une façon unique et personnelle, comme une prédisposition, comme une petite pierre précieuse, comme une signature de lumière, et qui est notre identité véritable. Et cette âme, cette pauvre lumière, elle est voilée par des masques, des croûtes, des blessures, tout ce qui nous est arrivé dans la petite enfance, même peut-être déjà dans le ventre de la mère, parce que ça fait partie des sujets extraordinaires, et ça fait partie de mes méthodes aussi de faire revivre la naissance. C'est d'autres séminaires, comme par exemple le prochain, le 4 août à Montpellier. Je fais des séminaires aussi, tout ce qui est libération m'intéresse, et donc la libération des mémoires poisons de la naissance, ça aussi ça m'intéresse. Et donc pour ce qui est de ce qu'on fait demain ici à Agen, demain et après-demain, et ce qu'on fait aussi le week-end d'après à Bordeaux, c'est repérer les 9 fixations de l'ego, comme si c'était des clous sur une circonférence. On est cloué par des blessures qui sont comme des croûtes qui empêchent de respirer. Et ces croûtes doivent tomber, doivent être repérées, et on doit s'en libérer. Donc la première chose, c'est comme un diagnostic pour les médecins, on repère où sont les fixations. On les touche, on en prend conscience, on fait face, et ensuite on s'en libère. Et c'est toute une méthodologie qui n'est pas simplement intellectuelle, qui est très pratique, puisque le premier jour on parle du système pour le comprendre, comment ça marche, comment marchent les lois de la psyché, parce que cette méthode Ennéagramme est tellement reconnue que même dans l'université française maintenant, elle fait partie du cursus en psychologie. C'est une sorte de science de l'âme, presque un alphabet de l'âme, à mon avis nécessaire, que je pense qu'un jour ce sera même à l'école enseigné, tellement c'est important et tellement ça a été reconnu. Et donc, suivre cette méthodologie nous aide à nous connaître nous-mêmes, ce qui est quand même la moindre des choses, apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'il y a des tas de gens qui font beaucoup de travaux magnifiques, mais qui, à un certain moment de leur vie, découvrent qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils connaissent pas leur âme. Et ils connaissent pas les autres non plus, et ils connaissent pas non plus leurs relations avec les autres. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Aider chaque personne à se connaître lui-même, non pas en le mettant dans une boîte, en lui disant il faut suivre ce chemin. Non, je leur dis je suis un miroir simplement pour vous aider à vous révéler à vous-même. Soyez vous-même, soyez bien dans votre peau. Quand vous êtes dans votre peau, c'est-à-dire c'est comme si vous dansez avec la musique, vous êtes en accord avec le mouvement de l'univers, en accord avec la volonté divine. Vous dansez avec la musique, c'est-à-dire les choses deviennent faciles, la vie se met à être harmonieuse, parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes vraiment dans votre vraie identité au lieu de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Et donc l'important, premièrement, c'est ce diagnostic. Finalement, quelles sont mes blessures? Qui suis-je? Parce que à travers nos blessures, il y a une éducation qui nous est donnée. Un peu comme quand on se cogne la tête contre un mur, on sait qu'il n'y a pas la porte. Donc à chaque fois qu'on a eu des blessures, au lieu de seulement se plaindre de ces blessures, il faut déjà comprendre pourquoi. Parce que si Dieu est bon, forcément, il est éducateur. En arabe, justement, dans la voix soufie, on dit « Rabbi », qui veut dire le Seigneur, et « Murabbi », éducateur. Et c'est la même racine, éducation, tarbiya, que la racine divine. Donc, « Rabbi », tout le monde le sait en hébreu, en arabe, en araméen, Jésus était appelé « Rabbi » aussi. Donc voilà, c'est le Seigneur. Et ce Seigneur, il enseigne. C'est pour ça que je dis, j'aime bien dire cette phrase, l'enseignant doit conduire vers l'enseigneur, le Seigneur intérieur qui est Rabbi. Et lui, il nous éduque. Donc, il nous éduque, mais je sais, ça semble difficile, mais c'est pourtant comme ça, il nous éduque à travers des problèmes, des blessures, des difficultés. C'est sa façon, comme nous, on passe des examens à l'école, on sait qu'on passe toujours des examens. Eh bien, le Seigneur nous fait passer des examens aussi. Je sais que c'est un peu dur, quelquefois, je lui dis, moi aussi, Seigneur, c'est trop dur quand même, mais c'est un grand scénariste, il fait un film. Alors vous savez, c'est comme dans les films, il faut bien qu'il y ait des méchants, des gentils, il faut bien qu'il y ait des moments difficiles, il faut bien qu'il y ait des moments intenses, sinon on dort. Et il nous réveille avec des blessures, des difficultés, mais tout ça est absolument une éducation. C'est ça qui est le fondement des fondements, comprendre que Dieu toujours, à travers toutes nos épreuves, nous éduque à un chemin et nous éduque à trouver notre place dans l'orchestre. Quelle est ma vie? Quel est le sens de ma vie? Qui suis-je? Et comment je dois me relier aux autres?
Et oui, c'est ça la méthode. Vous disiez que j'aime bien cette image de jouer la partition justement dans ce grand orchestre. Jouer la partition de sa vie.
Voilà, exactement. Oui. Chacun a sa propre partition. Donc son petit programme personnel qui lui correspond. Et quand chacun a sa place dans l'orchestre, joue sa partition, tout le monde est d'accord. Ça devient un beau concert. Mais s'il y en a un qui joue la partition du voisin, ça devient un couac et ça ne fonctionne plus. Donc l'import en plus, comment ne pas être plus heureux que d'être dans sa peau, être bien dans sa peau, être heureux avec ce que l'on est. C'est-à-dire faire vraiment ce qui nous plaît, ça correspond à faire vraiment ce pourquoi on est fait. Il y avait une parole très célèbre, soufie, donnée ce qu'on appelle un hadith. Je sais, j'ai parlé en arabe, mais c'est pas... moi j'aime les cultures du monde. Chaque chose pour laquelle on a été créé nous sera facilitée. Voilà ce que ça dit. Il est important de trouver le lieu où quelque chose est facile pour nous, et un peu comme si, au lieu de ramer, on rame, on fait des efforts, et un jour, on pose les rames, et on découvre quoi? Mais on a des voiles, et le vent peut pousser le bateau, le vent peut pousser nos voiles. Ça, c'est la grâce divine. La grâce divine qui, à un certain moment, pousse nos voiles. Et ça s'appelle, en mode populaire, on va dire, la chance. Mais qu'est-ce que la chance? La chance, c'est une grâce, un vent qui nous pousse, qui nous facilite les choses. Mais comment attraper ce vent? En se configurant de la bonne façon pour recevoir cette grâce, exactement comme le marin sait prendre le vent avec son bateau. Et si on sait prendre le vent, on sait prendre la chance, et la vie nous devient plus facile. Et on devient heureux. Celui qui est heureux, c'est qu'il a trouvé sa place. Celui qui n'est pas heureux, c'est qu'il n'a pas trouvé sa place. Nécessairement, quand on est juste à sa place, il y a une sorte de joie qui apparaît, et on se sent en harmonie avec les autres et en paix.
Et ce qui est intéressant dans la conférence, vous parliez des blessures, c'est que c'est, selon vous, un élément de transformation, et même que donc, dans chacune des 9 blessures que vous avez identifiées, il y aurait un appel à un service en version transformée.
Voilà.
Et ce que j'en ai retiré aussi, c'est que vous disiez que finalement, il ne faut pas chercher à se changer, mais à poser une certaine conscience bienveillante sur sa blessure profonde, et alors ça ouvre la porte à ce secret, à ce service en version transformée. Est-ce que vous pouvez le développer?
Oui, c'est vrai que c'était un bon rappel de revenir à cet aspect de détail. Et c'est un point très important. On a 9 fixations de l'ego ou 9 blessures de l'âme. Bon, dans la tradition classique, vous le trouvez sur Internet, Énéagramme. Énéa, c'est les neuf. Énéa veut dire neuf en grec, gramme, point, les neuf points. Il y a neuf points qui sont comme neuf blessures de l'âme et qui sont l'inversion de neuf services spirituels. Donc là, on est comme dans l'homéopathie spirituelle, je pourrais dire. Vous savez, dans l'homéopathie, on utilise ce qui est la maladie pour en faire un remède. Et donc, effectivement, dans ma méthode aussi, j'essaye d'amener les gens à toucher les points clés de leurs blessures et d'en prendre conscience et même de faire face exactement à ça. Au lieu de tricher et de ne pas regarder quelles sont nos blessures, il faut les regarder en face, car la prise de conscience de nos blessures va nous permettre de les retourner, de les transformer. C'est un peu comme l'alchimiste. Si vous dites à un alchimiste, « Monsieur, il faut faire de l'or. » « Mais désolé, j'ai pas de plomb. » Ah ben, comment voulez-vous qu'il fasse de l'or ? Il lui faut du plomb, quelque chose de noir, quelque chose de lourd, d'obscur. Et c'est toutes ces choses noires et obscures en vous peuvent être utilisées, transformées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se change pas, hein, pas vraiment. Ça veut dire que, au contraire, on va simplement se retourner dans le sens positif, effectivement. On va retourner cette blessure dans son aspect inverse, qui est le sens spirituel. Et je vais donner un exemple, il faut mieux que j'en donne un, parce que sinon c'est pas très clair pour les gens. Mais par exemple, on appelle le numéro 1, on donne les 9 typologies avec des numéros. Le 1, c'est celui qui est une sorte de perfectionniste. Et il se dit toujours à lui, il faut, on doit. Il se met à critiquer les gens. Il y a une sorte de pression incroyable en lui de « il faut faire ça, on doit faire ça, il a le sens du devoir, il est précis, il est impeccable, et les moindres choses, il les regarde. » Et donc, c'est extrêmement difficile pour lui, du coup, il est toujours en colère, il ne peut même pas montrer sa colère parce que ce ne serait pas être parfait, donc c'est les mâchoires serrées, il est comme ça. Et en fait, celui-là, il était appelé, justement en arabe, on appelle Tauba, à un repentir intérieur. Et en fait, le repentir au sens initiatique, pas au sens religieux, mais au sens initiatique, c'est se recentrer vers l'essentiel de soi-même. Et au lieu de se critiquer, il s'agit de se recentrer. Mais comme le message a été déformé par l'ego, parce que c'est toujours ça, le message est déformé par notre ego, qui est une sorte de paire de lunettes déformantes. Alors, en fait, au lieu de critiquer soi-même, et bien, par extension de critiquer les autres, il découvre l'appel divin qui est recentre-toi en permanence, reviens continuellement au centre de toi-même. Et ton centre, c'est un centre de lumière, un centre essentiel. Donc reviens à ton centre. Voyez, il a déformé l'appel « je dois me recentrer » en l'appel « je dois me critiquer » et par extension critiquer les autres. Chacun des neuf est une déformation d'un appel spirituel, une déformation de cet appel spirituel en une compulsion, ce qu'on appelle en psychologie compulsion, quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous revient tout le temps sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'une compulsion, c'est quelque chose de très très profond qui est imprimé nos cellules. C'est comme une mémoire poison, j'appelle ça mémoire poison. Il s'agit de toucher cette mémoire poison pour s'en libérer. C'est comme une bulle qui remonte au sommet, plouc, et qui doit sortir.
C'est cela, se laver le cœur ?
Voilà, exactement. On peut dire qu'effectivement, le grand sujet, c'est se laver le cœur, parce que tous les jours, vous savez bien, on se lave le corps. Mais si on oublie de se laver le cœur, on a un gros problème, parce que ça s'ajoute la poussière. Imaginez, là on est dans une pièce où tous les jours, on fait le ménage, donc l'aspirateur prend les petites poussières. Mais imaginez 5000 ans de poussière, le balai ne suffirait pas. Or notre ego, il n'est pas seulement notre ego à nous, pas seulement l'ego transposé par nos parents, nos grands-parents, comme on fait dans les constellations familiales, qui sont déjà intéressantes, mais seulement ça ne suffit pas, parce que c'est quelques familles. Mais en fait, l'ego, il remonte à 5000 ans. C'est-à-dire, la civilisation elle-même nous a conditionnés. Notre civilisation nous conditionne avec des pensées, des concepts, et même de cela, on doit se libérer. Donc, se libérer de l'ego, se laver le cœur, est un immense travail, et il faut quelque chose de plus. Et je vais vous donner un exemple de la tradition grecque, je trouve très amusant, c'est Hercule. Alors Hercule, l'homme le plus fort du monde, pas de doute, c'est le plus fort. Voilà, on lui donne, dans les 12 travaux, à laver les écuries du roi Augias. Mais même Hercule, l'homme le plus fort du monde, ne peut pas nettoyer les écuries tellement elles sont sales. Et bien sûr, ces écuries, c'est un peu comme notre ego dont on est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il va faire Hercule? Il va détourner un fleuve pour nettoyer les écuries. Eh bien, nous aussi, nous avons à détourner un fleuve. Mais c'est le fleuve de la grâce divine. Il y a un moment où notre pauvre petit effort personnel ne peut pas suffire. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut une grâce, une immense grâce pour détourner, pour nettoyer ce cœur et nettoyer les écuries d'Ogia, c'est-à-dire tout ce qui a été fixé en nous par des mémoires poisons. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça commence jusque dans le ventre de notre mère, c'est-à-dire toutes les blessures que la maman a eues, le bébé les a entendues, les a fixées dans ses cellules. Et comment toucher ça? Comment toucher des mémoires qui ont commencé si petits dans le ventre de notre mère? Il faut une transe, il faut quelque chose, il faut descendre dans les profondeurs de soi-même, il faut une grâce, il faut le supraconscient, quelque chose qui nous fait descendre plus profondément que simplement la pensée ou le mental. Parce que le mental, la pensée, d'après les neurosciences, le mental, c'est 2000 bits secondes, si on le fait avec l'ordinateur, 2000 connexions secondes. Mais l'inconscient, c'est 4 milliards de bits secondes. Donc on ne peut pas, avec le mental, nettoyer l'inconscient. Il faut autre chose, il faut cette grâce divine, il faut ce supraconscient, comme une lumière qui descend dans les profondeurs des mémoires poisons pour les nettoyer. Et donc je mets en œuvre aussi cette grâce que j'ai reçue par des maîtres soufis, par des maîtres de l'Inde, justement dans l'Himalaya, et cette forme de grâce particulière et fondamentale dans le travail que j'utilise, que ce soit pour l'énéagramme, que ce soit pour faire revivre la naissance, puisque le prochain séminaire énéagramme, donc il y en a un demain à Agen, comme j'ai dit, le 22-23 juin, mais il y en a un autre le 29-30 juin, si vous écoutez à temps l'émission, ou sinon, il y a évidemment la naissance le 4 août à Montpellier. Voilà. Mais pour me joindre, je donnerai mon mail.
À la fin de
l'émission, ceux qui ont un petit crayon, il faudra qu'ils le préparent. Voilà.
Mais avant de terminer l'émission, j'aimerais que vous nous partagiez. Donc, tout à l'heure, j'ai mal prononcé votre nom. C'est donc Monsieur Philippe De Vos.
Oui, vous avez remarqué, oui.
Donc, je tiens à rectifier.
Merci.
Et je voulais vous demander, comment vous voyez-vous le monde aujourd'hui?
Le monde est dans un très mauvais état, évidemment. Je crois que tout le monde s'en rend compte. Mais d'un certain point de vue, il faut savoir, là, l'enseignement de toutes les traditions en ont parlé. Les Indiens, ils parlent de Kali Yuga, c'est-à-dire on est dans l'ère de plomb, on est dans la conscience obscure, on est dans un moment très difficile au niveau de la conscience. C'est comme un hiver de la conscience. Bon, vous savez qu'on parle des quatre saisons aussi dans la Bible, les quatre âges de l'humanité, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Et on est dans l'âge de fer, on est dans le dernier âge où il y a le moins de lumière possible. Donc il faut déjà admettre que puisque ça va mal, c'est pour ça qu'on nous éduque à travers nos blessures. Si vous étiez à l'âge d'or, les choses vous apparaîtraient immédiatement, vous seriez éveillé dès votre naissance. À l'âge d'argent, on est ami de Dieu. À l'âge de bronze, on est des héros. À l'âge de fer, c'est tout juste si la spiritualité n'existe plus. Donc c'est un peu grave. Mais ce qui descend remonte. Donc oui, on est dans un hiver, mais après l'hiver, le printemps. Et en fait, j'attends ce printemps des consciences, et je pense que de l'intérieur de la terre, de nous-mêmes, se prépare un printemps. Et donc moi j'ai confiance qu'il y a des cycles, et que même si on est dans l'hiver, il y aura ensuite un printemps. Et donc j'attends ce printemps, et même je soutiens le retour du printemps, c'est-à-dire je soutiens les êtres spirituels qui transforment le monde, qui participent à essayer de rejoindre et de participer à ce mouvement qui est de toute façon divin, qui n'est pas le nôtre. Mais nous, on peut être les serviteurs du printemps, essayer d'aider à ce que ce printemps revienne sur la terre à travers les cœurs, justement, à travers les consciences, le secret des cœurs.
Eh bien, merci pour cette vision. Et je vais donc conclure par un petit mot de la fin. Et celui qui vous tient à cœur.
Eh bien, ce qui me tient à cœur, c'est que j'aimerais vous rencontrer, vous tous qui m'avez entendu, et je pense que peut-être certains d'entre vous veulent me connaître. Alors, vous pouvez m'écrire Philippe De Vos, c'est simple, c'est mon nom, Philippe De Vos 17. 17, c'est comme l'étoile du tarot, Philippe De Vos 17, @gmail.com. Ceux qui veulent, et je leur indiquerai à ce moment-là le séminaire soit de Bordeaux, si vous l'entendez à temps, 29-30, soit le 4 août, soit le 15 septembre du côté de Paris. Il y en a toujours. L'important, c'est de s'écrire, de rester en compagnonnage, car c'est pas juste un mot et on s'en va. Il est possible de rester en compagnonnage. Tous les vrais enseignements se font dans le compagnonnage avec la continuité. Et ça, c'est possible. Et je ne cherche à mettre personne dans une boîte. Chacun est unique, personnel, et j'aime libérer chaque être, quel qu'il soit. Merci d'avoir entendu et d'avoir écouté.
Merci beaucoup, Philippe. Au revoir.
Au revoir. Merci. À vous, merci à vous.